Fest, d'abord un film, prix du jury ex aequo au Festival de Cannes en 1998, de Thomas Vinterberg, qui a su insuffler peut-être au-delà de ce dogme un peu controversé de chasteté cinématographique, eh bien une énergie réelle à cette fête, à cette réunion de famille, à cette désintégration aussi des liens familiaux. Le film est devenu pièce en 2000. Et cette pièce, Christian Donizère, vous vous en êtes emparé. La première didascalie indication de scène indique l'importance centrale de la table. Or, la table dit toujours cette indication de scène, qu'on n'est pas obligé de suivre d'ailleurs. Les comédiens vont créer des espaces successifs à l'aide d'accessoires et va surgir progressivement le fameux manoir. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré déjà dans ces propos de table et peut-être dans le dispositif qu'on pouvait en tirer? On voit ici, en première page de l'édition des Actes Sud, une forme de Sainte-Seine, en fait.
Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'est un projet qui m'a été proposé. Et les deux choses qui m'ont intéressé, c'est d'abord que la troupe qui m'a proposé ça, elle se rencontrait dans le cadre d'improvisation. Et en voyant le film, je me suis dit que le film, il suivait pas en fait les logiques un petit peu manichéennes, on va dire, du cinéma, par exemple, hollywoodien. Ce qui fait qu'à partir du moment où il y avait cette révélation terrible comme ça, de manière abrupte et inattendue, tout d'un coup, on était dans le vide. On savait plus ce qui allait se passer les 5 secondes suivantes. Et ça, c'était un sentiment qui était à la fois terrible et puis en même temps jouissif, malgré le thème. Et j'ai trouvé intéressant de travailler avec des gens qui, précisément, par essence, travaillent sur scène sans savoir ce qui va se passer effectivement dans les 5 secondes qui suivent. Donc je trouvais que le lien entre des gens qui faisaient de l'improvisation et puis cette pièce-là était effectivement intéressant. Et puis ensuite, j'ai voulu que tout le monde soit à table, effectivement, c'est-à-dire les spectateurs compris. Donc on a rapproché le plus possible les spectateurs de notre table. On a fait un dispositif en trifrontal, en U, ce qui fait que on est dans la fête. C'est aussi quelque chose en fait qu'on pouvait percevoir un petit peu dans le film, qui est tourné caméra au point, un peu à la manière documentaire. Et puis je pense que ça nous empêche d'être simple spectateur. Ça nous oblige en fait à réfléchir en tant qu'invité à cette table. Pour accentuer ça, on a mis 4 spectateurs vraiment à table avec les comédiens. Ils ont quelques indications au début de parcours et puis ensuite on leur demande juste de se comporter en tant que spectateur. Ils n'ont pas à jouer ou des choses comme ça. Et ça fait que je pense que les spectateurs autour voient aussi à travers leurs yeux, comme une loupe. Et ça fait qu'on peut pas, je pense que c'est plus difficile de se désengager en fait, en quelque sorte, du propos. Et c'est ça qui est intéressant dans le texte de Fexton. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on est en cœur d'une chose comme ça, une révélation dramatique comme ceci. On a, dans l'absolu, on peut se dire, mais oui, mais moi, ça me scandaliserait, je quitterais la table, je ferais des choses comme ça. Et dans les faits, on voit que c'est très difficile, en fait, de réagir. Et puis que, ma foi, il y a une inertie de groupe qui fait que, pour la plupart du temps, malheureusement, on attend que ça passe, quitte à réagir plus tard, mais disons, sur le moment, c'est très très difficile. En plus, le texte, justement, est pas manichéen, les méchants sont pas présentés comme des méchants, les gentils comme des gentils, ce qui fait que la réalité est beaucoup plus difficile à percevoir, et ça, c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans la vie, ma foi, c'est-à-dire que les fois où on se fait avoir, ou bien les fois où on est face à quelqu'un qui manifestement a fait des choses terribles, ça s'est pas marqué physiquement sur lui. C'est souvent des gens très, ça peut être des gens très élégants qui parlent très bien, qui sont et dont on se méfie pas, ou et même quand on sait, on se dit bah tiens, tu déconnes, je pense pas, regarde, j'ai passé la soirée avec, j'ai jamais eu de problème. Et en fait, je trouve que ça c'est un côté très intéressant pour le spectateur et avec ce dispositif. Et puis, ce qui revient à dire d'ailleurs que l'inceste n'est pas du tout le sujet de cette pièce, à mon avis. C'est-à-dire que je pense que Vinterberg a voulu parler du secret de famille et puis de ces types de communication et puis de, on va dire, d'une espèce de notre lâcheté naturelle en fait face à ce type d'événement et puis qu'il a voulu simplement que la bombe soit la plus sale possible, qu'on puisse pas l'intellectualiser ou des choses comme ça, que ce soit quelque chose qui nous répugne physiquement. Dans la pièce, j'ai mis une petite fille qui était dans le film, qui existe d'ailleurs dans le texte de la pièce, et qui a souvent été enlevée pour des raisons pratiques, parce que c'est difficile d'avoir des enfants tous les jours sur un plateau. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que la petite fille, elle a l'âge des enfants au moment des fêtes. Et en étant à table, en jouant avec son grand-père, tout à fait innocemment, on est obligé de regarder à travers elle aussi, à travers son regard. Et ça nous empêche complètement, ça nous empêche déjà d'oublier en fait la noirceur de la bombe. Et puis, ça nous empêche d'intellectualiser. J'ai l'impression que le fait qu'elle soit là, ça nous oblige à s'en tenir au fait, en fait. Et puis, voilà, c'est à peu près ce que je peux dire.
Alors pour revenir au fait, justement, oui. Au pitch, oui. Quelque part, de cette pièce, il s'agit donc d'une réunion de famille qui a été convoquée en l'honneur des 60 ans de Helge Klinkhoff, qui est donc le patriarche, père de 4 enfants. On se réunit donc dans ce manoir, avec toutes les tensions que cela suppose. Et vous parliez justement de ces effets de réel induits par cette caméra tenue à l'épaule. Donc un film récemment comme Cloverfield, grand blockbuster hollywoodien, n'a rien inventé, puisque là, effectivement, Vinterberg, ce qui a fait aussi d'ailleurs beaucoup la fortune de son film, c'est qu'il utilise tous les codes et les poncifs du genre film de famille, j'entends. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est filmé par l'un des convives ou par en tout cas quelqu'un qui va suivre les personnages. Et on a aussi cette impression que on a tous ces codes, c'est-à-dire les embrassades, le repas ritualisé, la danse. Alors justement, ce rituel, il va toucher jusqu'à cet aveu confession ou cette accusation qui tombe très tôt. D'ailleurs, Vinterberg est quand même très malin dans le film. Il va multiplier les fausses pistes, il va aussi créer un suspense là où on l'attend pas nécessairement. Alors qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce côté déjà ritualisé dans la prise de parole ?
Oui. Effectivement, ben c'est une famille où on parle par discours. On n'arrive pas à se dire les choses simplement la main autour de l'épaule. On doit dire les choses de manière officielle, en quelque sorte. Et puis Christian, le fils, il va brocarder en fait cette façon de faire. Et puis il va commencer à raconter à raconter sous forme d'anecdote sa terrible histoire. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient effectivement assez vite. Puis ensuite, le convive suivant se lève, raconte à son tour son histoire. Tous les autres convives sautent sur l'occasion pour faire redescendre la tension. Et ça repart et on se dit, tiens, c'est incroyable. On a bien l'impression que le tapis va pouvoir se remettre sur la saleté aussi facilement qu'elle en est sortie. Et en fait, c'est à cette lutte-là qu'on va assister, c'est-à-dire la vérité, enfin une vérité en tout cas est sortie. Comment on va arriver à ce qu'elle soit admise, acceptée. D'ailleurs, Vinterberg assez pessimiste vu que c'est le pur hasard qui va finalement faire admettre la vérité, c'est-à-dire la découverte d'une lettre fortuite. Sans cette découverte, il n'aurait pas réussi. Donc c'est vraiment le hasard. C'est pas du tout. Il n'y a pas de héros. Il n'y a pas d'acte vraiment admirable là-dedans. Enfin si, les gens le font, mais il n'y a pas d'acte décisif, on va dire. C'est ça. Voilà. Je pense que dans l'article, il faudrait pas dire le qui a raison. C'est-à-dire, on voudrait pas en parler de ça, parce que je pense que il y a beaucoup de gens en fait qui l'ont pas vu, puis finalement cette surprise est là. Moi, j'ai travaillé dans le sens que j'ai demandé à tous les comédiens de ne pas dévoiler la vérité, c'est-à-dire le plus longtemps possible, parce qu'en fait, la théorie du père, la théorie du fils, elles se tiennent les deux, et puis elles sont objectivement tout à fait possibles. Dans les histoires d'inceste, d'ailleurs, il y a des terribles injustices qui peuvent être commis. On l'a vu. Tellement c'est un sujet qui nous touche, tellement les victimes sont sans défense, que effectivement on peut tout d'un coup porter crédit à des choses qui ont été construites presque par nos fantasmes en fait.
En parlant de ces fantasmes, oui. Juste excusez-moi, pour revenir peut-être à cette manière dont cette vérité va progressivement faire son chemin. Il y a un personnage important qu'il faut évoquer, c'est celui de Else, la mère de famille, qui est un petit peu le ciment des apparences, des conventions, et qui a justement ce déni de réalité. C'est-à-dire qu'elle va, comme vous le disiez, tenter avec un tapis personnel et de type psychologique, d'ailleurs c'est assez subtil, recouvrir justement cette poussière et cet acte d'inceste avec ses deux enfants, Christian et sa sœur, auquel elle a aussi assisté fortuitement. Donc c'est vrai que par rapport à ça, elle va inventer un fantasme très Françoise Dolto, c'est-à-dire que, Christian aurait un compagnon imaginaire. Et c'est vrai que là, il y a, je dirais même pas une mise en abîme, mais il y a quelque chose vraiment de très intéressant dans la manière dont à la fois le père de famille et la mère de famille vont rentrer dans cette trame psychologisante pour retourner, en fait, l'argument.
Oui, d'ailleurs, à mon avis, il l'avait, cet enfant imaginaire, quand il était petit. Je pense qu'il est, comment dire, il a été très perturbé, c'était un enfant, j'imagine, très difficile, et dans la pièce, on découvre qu'il a été plusieurs fois en hôpital psychiatrique, Donc ça fait que ça crédibilise quand même beaucoup la thèse du père et de la mère, c'est-à-dire, regardez ce qui nous arrive ce soir, voilà notre fils qui quitte à nouveau la réalité et puis qui le fait à l'anniversaire de son père. C'est terrible de faire ça à son père. Tu l'as rendu très malheureux, etc. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et moi, je pense que ce que cette pièce m'a appris en tout cas, c'est que c'est très très difficile. C'est très difficile de juger. C'est-à-dire que par exemple, quand le père se défend, je me dis, mais si ça se trouve, il y croit, le père. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez fermé une porte un moment et puis vous êtes inventé des excuses, au bout d'un moment, vous y croyez. Vous mentez à vous-même. Je pense que la mère, elle, malheureusement, c'est la seule que j'arrive pas à pardonner. Parce que je trouve qu'elle fait quelque chose qui peut pas être inconscient. Elle fait quelque chose qui est vraiment construit, calculé, pour sauver les apparences. Et elle sacrifie son fils, en fait, à ça. Donc, je pense qu'en tant que mère, c'est un acte terrible et impardonnable. Et c'est la seule personne que dans la pièce dont on peut percevoir un jugement de notre part, c'est sur la mère, en fait.
Elle est pourtant détruite. Là, on retrouve peut-être l'expressionnisme strindbergien, parce que c'est vrai que Vinterberg vient aussi de cette littérature nordique, de ce combat des cerveaux, mais également de ce qui déchire les corps. Et c'est vrai que quand elle réapparaît au petit matin, la mère, elle apparaît totalement défaite, déchirée, rampante quasiment. Oui. Donc c'est quand même un être qui a été, même si on peut ne pas lui trouver de circonstances atténuantes, elle a été quand même totalement anéantie de l'intérieur, non seulement par cette révélation, mais par parce qu'elle, elle-même, ne voulait pas, comme d'ailleurs des personnes qui ont fait des actes extrêmement répréhensibles du type, effectivement, inceste. Christine Angot en parle d'ailleurs dans l'inceste, où son père était souvent dans le déni aussi, par rapport à ce type de comportement. Donc, qu'est-ce qu'il en est quand même? Parce que quand Winterberg parlait de la comédienne qui devait jouer, elle dit « tu dois toujours être au bord des larmes, mais jamais y arriver ». Tu dois toujours être dans des états limites, mais jamais y parvenir. Comment est-ce que vous avez travaillé quand même avec cette comédienne? Parce que c'est en même temps quelqu'un qu'on perçoit pouvoir avoir une certaine humanité, et puis qui en même temps se montre, comme vous l'avez dit, assez impitoyable.
En fait, là où je trouvais qu'elle était juste, c'est quand il fallait qu'effectivement... En fait, elle représente effectivement la famille, cette société-là. Je pense que si le mari, je pense que c'est elle qui a le château, c'est elle qui a la fortune, et que c'est le mari qui est arrivé par son travail à un certain niveau. Mais je pense que elle, vraiment, c'est elle qui a son, qui est dans cet univers-là, puis c'est elle qui veut le défendre à tout prix, en fait. Et en fait, quand elle est, alors, elle, notre maman est plus, on va dire. Il y a une phrase qui dit « notre mère à tous », et j'ai plus travaillé dans ce sens-là. Je trouve bien qu'elle soit notre mère à tous, c'est-à-dire l'élément rassurant, en fait, de tout ça. Il y a drame qui se passe, la soirée c'est filoche, etc. Heureusement, il y a notre mère à tous qui est toujours là et puis qui va nous réparer tout ça. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que j'ai voulu travailler, parce que je trouvais très intéressant qu'un élément aussi universellement rassurant que notre mère à tous soit en fait la personne la plus dévastatrice dans l'histoire pour le fils. Alors, dans le fond, je ne sais pas, on pourrait aussi se dire, la femme d'un des comédiens qui travaille justement avec des enfants qui ont été victimes d'inceste, elle me disait, mais tu sais le pourcentage de femmes qui ont protégé leur mari? Et elle m'a dit, c'est 100%. C'est carrément, il y a, voilà, les femmes protègent leur mari. Donc, est-ce qu'on peut vraiment aussi lui jeter la pierre? C'est très difficile à dire. Elle fabrique comme nous on le fait, toute sa société. Autour, je sais pas, moi, de sa famille, de sa situation, de ses amis. Et puis tout d'un coup, tout ça est très, très, très menacé. Donc elle veut tout faire pour le sauver. Et à un moment, elle a le choix entre sacrifier son fils ou sacrifier tout le reste. Alors, voilà. Elle choisit de sacrifier son fils. Mais ça, je pense que ça reste. Je suis pas sûr qu'elle soit anéantie, parce qu'elle se rend compte que son fils a fait quelque chose. A été une victime. Je pense qu'elle est anéantie parce que son univers vient de s'écrouler, à mon avis. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de peine, en fait, à la pardonner.
On va préciser, Christian Denizard, et c'est très important aussi, parce que Winterberg joue beaucoup sur ce contraste, qu'il y a deux fils. L'un, Michael, n'a pas aussi bien réussi que l'autre, il est beaucoup plus instinctif, il est dans le réactif, c'est un violent, il est raciste, xénophobe. Cela dit, il n'est pas uniquement ça, mais j'entends, il y a cet aspect-là, il va jusqu'à battre, d'ailleurs, une femme, Michel, et puis un second, donc, qui est plus inhibé sexuellement par rapport aux femmes, qui est donc Christian, qui va faire ses révélations, avec, alors, toute la pièce est vraiment le film, et pour certaines personnes c'est un peu un malaise et sous-tendu d'allusions explicites ou implicites ou sexuelles, hein, j'entends que ça soit dans les plaisanteries, que ça soit dans la circulation des corps et des relations entre les personnes qui est proprement sidérante dans cette pièce. Alors qu'est-ce qu'il en est entre ces deux frères? Parce qu'au départ il y en a un qui n'est pas voulu et l'autre qui est désiré, puis après il y a comme une inversion qui se crée.
Oui, alors par rapport au... c'est quand même... frappant de voir qu'effectivement la révélation elle est atténuée par, comme je disais, par le discours suivant qui est une black cochonne. Donc c'est pour dire à quel niveau les gens de cette famille arrivent à mettre cette révélation. par rapport aux deux
blague films. Du grand-père en plus, donc on reste dans la transmission.
Oui, exactement, exactement. Et puis le par rapport aux deux fils, Michael, effectivement, bon, Michael, il a été, ils l'ont pas beaucoup vu, ils disent, c'est-à-dire qu'il a été mis immédiatement en pensionnat, en Suisse d'ailleurs, il a été mis, etc. Il a fait des écoles privées sur écoles privées. D'ailleurs, à mon avis, pour le protéger, c'est-à-dire qu'il a été mis, vu ce qui s'est passé avec le grand frère, ils l'ont vite éloigné pour pas qu'il lui arrive la même chose. Et en tout cas, c'est une possibilité. Donc effectivement, ça fait quelqu'un qui a été très vite éloigné, qui a jamais réussi vraiment à s'imposer, enfin qui a eu beaucoup de problèmes, mais à mon avis parce qu'il n'a pas été éduqué par ses parents, c'est-à-dire qu'il est en recherche éternelle de reconnaissance de son père, tout simplement, de ses parents. Et puis derrière, il fait le même métier, il a un restaurant aussi, ça marche pas du tout, c'est une espèce de bouge infâme. Et puis effectivement, ensuite, il est raciste, mais toute la famille est raciste, hein, c'est quelque chose de qui est manifestement admis. On le voit à l'arrivée d'un invité arabe qui est invité par la sœur cette fois, qui le fait par pure provocation d'ailleurs. Et donc effectivement, lui, le fils, il cherche que ça, c'est-à-dire il cherche la reconnaissance de son père. Et puis le frère, lui, réussit très bien. Il réussit très bien. On lui propose. Il y a une scène qui est un peu particulière, c'est-à-dire il y a une scène où on parle de. Ah, ça y est, j'ai plus le nom sur le bout de la langue. On parle d'une confrérie en fait. On parle d'une confrérie.
La franc-maçonnerie.
La franc-maçonnerie, voilà, c'est ça. Et le père propose justement au jeune fils d'y aller parce que le grand frère veut pas y aller. Donc il lui propose ça en deuxième choix, en quelque sorte, et si la soirée se passe bien. Alors ça, c'est possible que ce soit quelque chose qui soit plus important en Scandinavie. J'ai d'ailleurs pas beaucoup insisté là-dessus. J'ai beaucoup effacé, en fait, le Scandinave de la pièce pour les mêmes raisons qu'on avait invoquées avant, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on se dise « ils sont fous, c'est danois ». Je voulais que c'était un titre. Non, on est... On est dans quelque chose qui est tout à fait universel. Je pense même pas d'ailleurs qu'on pourrait se dire ils sont fous ces bourgeois. Je pense que c'est malheureusement des choses qui arrivent dans des familles, dans les familles les plus modestes aussi. Pardon.
Oui, justement pour revenir en fait à ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'inceste n'est pas le sujet principal de la pièce, ni même d'ailleurs la révélation ou les ambiances lourdes de mystères, de secrets ou les conventions sociales, mais un des sujets quand même qui a été assez peu abordé, c'est que c'est un parricide. J'entends, c'est un meurtre du père qui se fait progressivement. On peut le voir comme ça ou pas, hein, mais j'entends d'une certaine manière, il est exclu à la fin du cercle. J'entends par le jeune fils, Michael, qui lui dit maintenant, le lendemain, il faut que tu te casses si tu veux qu'on puisse prendre le petit déjeuner parce que sinon ça va plus. Et donc il est quelque part relégué aux marges, alors qu'avant il était au centre de tous les toasts. Il y avait même un maître d'hôtel d'origine allemande qui le célébrait comme étant son père danois. J'entends tout le monde va faire quelque part cette démarche, ou pas au même degré, mais il y a quand même, je dis pas qu'on est comme dans Le Parrain de Coppola, mais il y a tout de même un meurtre qui est à la fois symbolique et assez réel. Ou alors est-ce que vous l'avez ressenti d'une autre manière?
Non, j'ai ressenti d'une autre manière, parce que je trouve que malgré la révélation, les gens restent quand même beaucoup, quoi. Alors bon, Winterberg a choisi un procédé, c'est-à-dire que c'est aussi une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que qui sont les alliés du fils, en fait? C'est le personnel de maison et puis cet ami arabe qui vient et puis qui le défend aussi. Dans le fond, c'est l'autre côté de la barrière qui s'allie en fait à Christian, c'est-à-dire c'est les domestiques face, face au propriétaire, les domestiques qui voient tout, qui entendent tout, et puis l'étranger face aux racistes. Donc lui, il les enferme en décidant qu'on pique les clés des bagnoles, comme ça ils sont obligés de rester. Au début, il y en a deux, trois qui veulent partir, effectivement, ils se doutent bien qu'il faut que ça va mal tourner, mais quand ils restent, ce qui est frappant quand même, c'est qu'il y a les révélations successives qui se passent, puis entre deux, c'est la fête. Ils dansent, ils chantent, etc. Ils arrivent en fait à continuer à fêter, et puis advienne que pourra, on verra, peut-être l'alcool aidant, etc. Mais il n'y a pas de véritable rejet, en tout cas pas avec le père. Ils font la queue leu-leu avec toute la famille jusqu'au dernier moment. Et puis c'est quand le père admet, c'est dommage, je voudrais pas le dire, mais on verra. Mais c'est quand le père admet finalement que les gens s'octroient le droit de dire c'est bon, maintenant je le rejette quoi. Il y a plus. Je trouve que le bénéfice du doute, quand même, ils l'ont accordé. Ils l'accordent vraiment très longtemps, quoi, en quelque sorte. Donc il y a parricide, mais je dirais que
Christian se renie
seul.
Oui, mais Christian se renie lui-même.
Et même lui, effectivement, une fois qu'il est seul face à son père, c'est une scène qu'on a adoré travailler d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit ça. Ensuite, il se retrouve seul face à son père. Puis il dit non, mais je suis fatigué en ce moment. Je sais pas ce qui m'a pris, etc. Et c'est très troublant, puis c'est très compréhensible en fait. C'est vrai que quand il est avec son père seul, il a 6 ans. On le voit bien. Il est et nous, on a souvent ce sentiment-là quand même aussi. Et donc effectivement, quand il vient lui balancer une grande claque. Donc après, il supporte pas le regard de son père face à ça. Donc il s'en excuse, il s'arrête, tout le monde se renie. Et c'est le personnel de maison qui lui dit non, maintenant tu vas jusqu'au bout, tu continues. Sinon il serait parti. Sinon il serait parti aussi. Quoi.
Mais Christian est déjà un être à part dès qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il a pris un train avant un avion. Il vient seul, il vient avec son sac de voyage et il vient à pied depuis la gare. Tout le monde est venu en couple. À deux, comment est-ce que vous avez amené ça, justement? Parce que déjà, dès le départ, il est comme ces étrangers qui arrivent chez Tennessee Williams ou autre. Il y a déjà quelque chose d'assez particulier avant même la première... c'est un peu comme dans les films de Dreyer ou autre. C'est déjà caractérisé avant le premier mot.
Son état, il était dur à trouver parce que, en fait, il est dans cet état de concentration avant la guerre, lui. Les autres, pas, forcément. Les autres, ils viennent... pour faire la fête, il y a une ombre sur la famille, c'est qu'un an plus tôt, une sœur s'est suicidée, donc il y a cette tristesse, il y a cette chose-là qui est toujours là, mais n'empêche que tout le monde est dans une optique de maintenant, il faut que la vie continue, etc. Et lui, en fait, ce décès, ça l'a décidé à autre chose, ça l'a décidé à révéler ce qui s'est passé et pourquoi, à son avis, sa sœur s'est suicidée. Donc, lui, il arrive en état de... c'est comme cette nuit que passent les chevaliers avant d'aller se battre, c'est-à-dire qu'il est dans cet état-ci, il se concentre, il sait qu'il est très fragile, et il sait que il faut pas qu'il parle beaucoup, il faut pas qu'il discute, il faut pas qu'il laisse son affection naturelle se dire non mais je vais pas leur faire ça, je vais le faire autrement, je sais pas, mais je peux pas. Donc il reste assez vague, assez neutre pendant très longtemps jusqu'à qu'il parle, parce que il sait que voilà, c'était ça, c'est-à-dire qu'il va faire quelque chose dont qu'il a tout juste la force pour faire, quoi, j'ai l'impression.
Mais il va le faire en le réinitialisant de la même manière dont le père tirait au sort les deux enfants avant de les écrémer, si j'ose dire, c'est-à-dire en proposant sous forme de jeu un papier. Donc il y a quand même des... Enfin, c'est une pièce qui est remarquablement écrite.
Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment très bien. Je suis très impressionné quand il l'a fait. Ouais, c'est... il avait la trentaine. Il disait que c'était pas du tout, je crois que c'est vous qui me disiez ça, que c'était pas du tout son sujet, l'inceste. Et je pense qu'effectivement, c'est, les choses se recoupent admirablement. Il y a une chose que j'ai complètement supprimée, c'est que dans le film, il y a un aspect un peu mystique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de présence de la sœur morte, qui est même suggérée carrément à l'image à un moment. Et dans la pièce, en fait, on proposait qu'il y ait un spectre qui vienne cacher des choses, etc. Et je trouvais que ça amoindrissait un petit peu le propos central. Enfin, j'arrivais pas à y trouver une véritable importance à cet aspect-là. Donc ça, j'ai complètement enlevé, parce que je trouvais que ça avait pas beaucoup d'intérêt à mon avis. Puis curieusement, c'est les scènes qui quittent le plus le dogme pour le film.
Parce que Christian dialogue avec cette jeune sœur tôt suicidée dans sa baignoire, oui. Linda. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on lit cette lettre, même si on n'a pas tout en révélé, mais il y a quelque part, par exemple, comme un autre auteur nordique, Stieg Dagerman, dans Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, c'est-à-dire vraiment une attirance pour la mort. Non pas une éloge du suicide, mais en tout cas le fait que ça sera beaucoup plus paisible, qu'elle va peut-être retrouver Christian, qu'elle a pas... Donc il y a tout ce côté, les gens n'étaient pas co-présents ni présents à eux-mêmes et aux autres à un certain moment donné. Elle le dit d'ailleurs avec beaucoup d'amour. C'est presque une lettre d'amour à son frère, d'ailleurs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, cette lettre me semble bien plus explicite et juste que le dialogue qu'a normalement Christian avec ce spectre. Et puis sous une forme que je trouvais de nouveau tout à fait concrète, réelle. C'est-à-dire que tous les éléments qui nous permettent de rester à cette soirée, à cette table, je trouve bien. Et puis c'est tellement fragile, c'est-à-dire qu'il suffit tellement peu de choses. Déjà au théâtre, il suffit que votre voisin se mouche ou n'importe quoi. Enfin, il y a tellement de choses qui vont vous sortir en fait de cet état-là que c'est vrai que on a essayé de travailler dans une espèce d'hyper-réalisme, je ne sais pas, quelque chose comme ça qui fait qu'on puisse vraiment s'y sentir. Et puis cet aspect de spectre, là, voilà, je trouvais que ça me sortait un petit peu de l'histoire.
Alors, hyper-réalisme sans naturalisme, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une sorte de mise en abîme, je dirais, puisqu'il y a un personnage important dont on n'a pas encore parlé, qui est peut-être un substitut du cinéaste ou du metteur en scène, c'est ce maître d'hôtel, qui va aussi permettre justement ce que vous disiez, c'est-à-dire que les choses s'enchaînent, même dans des situations crapoteuses, après des révélations, il faut toujours qu'on enchaîne les scènes, on fait la queue leu-leu, on va distribuer des cigarettes aux invités. Alors il y a des enchaînements comme ça. Comment est-ce que vous l'avez vu, ce maître d'hôtel qui, dans certaines mises en scène, notamment au Canada que j'avais vu filmer, apparaît quasiment comme un monsieur loyal dans un univers très circassien. Mais peut-être vous, quelle est votre vision ?
Il est alors c'est le maître de cérémonie en fait, parce qu'il y a aussi un maître d'hôtel. Donc c'est le maître de cérémonie. Effectivement, ça c'est. C'est quelque chose que nous, on connaît encore dans les mariages, mais finalement qui ne se fait plus tellement autrement, je crois. Donc lui, effectivement, il est responsable de l'ambiance. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans sa trajectoire, il est monté très vite, ce qui fait qu'il se retrouve autour de cette table et avec ses événements assez jeune. C'est-à-dire qu'il est jeune et pas du tout habitué. Enfin, comment dire, il n'a pas du tout la stature pour gérer une situation pareille. Et c'est ce qui rend ses décisions, en fait, assez absurdes. C'est que lui, il va continuer à suivre son parcours, enfin, sa feuille de route, hein, malgré tout ce qui se passe. Ça en fait d'ailleurs un élément assez drôle. Et c'est une pièce drôle, hein. C'est vraiment une pièce que je trouve très drôle. C'est très grinçant, bien sûr. C'est douloureux, mais par bien des aspects, il y a cet humour noir scandinave, justement, qui est dans cette pièce. Et c'est vrai que lui, là, on pourrait parler d'un parricide. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il considère cette personne comme son père. Et lui, je pense qu'il voit effectivement tout en train de se délier, de se détruire. Il en perçoit petit à petit les conséquences. Et la scène du petit déjeuner, elle est très intéressante parce qu'on voit les gens après l'orage. Et puis on voit ce qui reste d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont et puis qu'est-ce qui était lié en fait au rôle qu'ils étaient obligés d'endosser dans cette soirée, un rôle de cérémonie en fait, mais pour tout le monde et pour lui d'autant plus, et qu'ils ont été obligés d'endosser d'ailleurs au-delà du raisonnable. En fait, et le lendemain, on les retrouve. C'est une scène que j'aime beaucoup parce qu'on les retrouve en fait beaucoup plus eux, c'est-à-dire plus humainement. C'était important de le montrer. Ça, je pense que Winterberg a bien fait de montrer les conséquences. Elle sert pas seulement à ce que on assiste au départ du père. À la mise sur la touche du père, mais aussi à ce qu'on voit les personnages après une nuit de réflexion, quoi, après la bagarre.
Alors justement, cette bagarre, on boit énormément dans cette pièce, et il n'est même pas sous-entendu, mais assez explicite, que Christian a des problèmes d'addiction à l'alcool assez sérieux. On peut peut-être le justifier, mais on ne va pas chercher à sincèrement tout expliquer par rapport à l'aveu qu'il doit faire. Mais j'entends, il ingurgite des quantités phénoménales d'alcool. Et d'ailleurs, son discours va plus ou moins se déstructurer, entre guillemets, se déglinguer aussi, parce que les dernières révélations vont être extrêmement brutales. Il va parler du sexe de son père sur ses cheveux, ça va être vraiment devenir maintenant dans les images de plus en plus explicites, et puis en même temps il est quand même à un certain moment donné exclu de la fête, parce qu'on se rappelle que c'était le jeune frère Michael qui avait pété les plombs la précédente fête visiblement, et qui s'était aussi enivré jusqu'à plus soif, et qui visiblement avait eu un comportement qui n'était pas du tout séant. Et puis là, c'est une inversion, c'est-à-dire que c'est le jeune frère qui va quelque part, le jeune fils qui va quelque part emmener et quasiment ligoter dans la forêt. Donc là, il y a une scène très bizarre dans le film où après il sort, il se détache, il revient, il retrouve Pia qui est cette domestique, si j'ose dire, qui est amoureuse de lui. Parce que qu'est-ce qu'il en est justement sur le traitement de ces scènes qui après vont à l'extérieur, parce que vraiment à un moment donné il est expulsé alors qu'il résiste de tout son corps.
Au théâtre, il sort, ça. C'est-à-dire qu'on assiste à, on a quelques scènes qui sont entre guillemets extérieures, mais justement la table est suggérée, enfin la table est là, le reste est suggéré, et en fait ça marche très bien, hein. C'est quelque chose qui fonctionne bien, et puis même qui ont un sens. C'est-à-dire que on a essayé au début d'avoir plus d'accessoires, et puis on les a tous enlevés en fait, parce que pour la plupart du temps ça n'ajoutait pas à la compréhension, et puis en plus si c'était pour des raisons esthétiques ou bien des raisons on enlevait tout effet en fait théâtral, parce que dans l'occurrence, avec ce sujet-là, je trouvais que ça devenait vulgaire, en fait, grossier, déplacé.
D'ailleurs, le dogme insiste là-dessus, hein. Il n'y a pas d'effet théâtral. Or, c'est vrai que ces règles n'ont pas tous été respectées à ce moment-là, mais j'entends que ça correspondait quand même à une prise de position contre une certaine narrativité, contre un certain cinéma aussi à l'époque. Donc, je veux dire, il y avait une volonté, je ne dis pas comme la nouvelle vague nécessairement, mais effectivement de tourner en direct, en une journée. Les figurants ne savaient pas quels étaient les textes, alors que les comédiens principaux les connaissaient. J'entends, il y a le trucage et filtres sont interdits, hein. Je reprends quelques-uns des articles de ce vœu de chasteté dogme 95. Caméra tenue à l'épaule, le film ne doit contenir aucune action superficielle, c'est-à-dire pas de meurtre, pas d'armes. Les aliénations temporelles et géographiques sont interdites, c'est-à-dire qu'il y a une unité de temps, de lieu. Et puis les films de genre sont inacceptables. Alors là, bon, évidemment, il a retourné un peu la chose, son propre combat, mais c'est vrai que du côté, disons, du refus vraiment des artifices, de tout ce qui peut brouiller en fait un contact direct avec ces effets de réel, avec une réalité. Il y a quand même ça à la base du dogme aussi, même si ça a été pris par certaines personnes comme un gag assez mal reçu par la critique. Néanmoins,
le résultat est là. Hein. Ça fait qu'effectivement, on se retrouve parce qu'en fait ce qui est je pense que le dogme n'aurait pas marché, à mon avis ça aurait pas marché si on se dit oh, tiens on va appliquer le dogme à, je sais pas moi, garder les étoiles ou bien quelque chose comme ça. Donc les histoires sont écrites aussi en fonction du dogme, c'est-à-dire que en fait le dogme ça dit maintenant on va revenir à l'histoire, on va vraiment raconter notre histoire. Et alors dans le théâtre, on va dire que oui, peut-être que ça aurait un sens de faire une espèce d'adaptation. Je crois que ça a été tenté d'ailleurs. Maintenant, pour ma part, c'était pas le propos. C'est-à-dire que le résultat du dogme, c'est que ça avait forcé à écrire une histoire où on allait à l'essentiel, où c'est vraiment la trame qui faisait toute la beauté du film et de la pièce, et puis ça nous permettait en fait aussi d'avoir justement quelque chose qui était facile à mettre sur une scène, parce qu'il y a cette unité de temps, de lieu, ce travail dans ce sens là donc le dogme, on va dire que c'est plutôt quelque chose qui a transformé c'est plutôt quelque chose qui a amené le film vers le théâtre que le théâtre qui a dû aller vers le film. Donc ça, c'est vrai que ça a fait que Festen, c'est une pièce qui est beaucoup jouée. Dans les versions que j'ai vues, il y a des versions où ils ont fait un très très grand décor ou des choses comme ça. Et je pense que, d'ailleurs, c'est pas ces versions-là qui ont eu beaucoup de succès, parce que je pense que c'est pas nécessaire. Il y a des versions où le fait de mettre des gens à table, par exemple. J'étais très content de cette idée, mais malheureusement, j'ai vu qu'il y en avait plein qui l'avaient eu. Par contre, il y a beaucoup de versions où, en fait, ils ont mis tout le public, par exemple, à table, c'est-à-dire 40 personnes. Et puis là, on a ce qui en sort, c'est-à-dire que nous, au début, on voulait mettre 8 personnes, puis finalement, on est réduit à 4 pour des questions d'inertie. C'est-à-dire que si vous avez une table, je ne sais pas moi, si tout le monde chante, ou etc., puis si en fait, dans les fêtes, il y a la moitié ou bien le tiers de la table qui chante, ben voilà, ça va tirer vers le bas l'impression générale de fête en fait. Donc c'est pour ça qu'on en a pris assez peu. On en a pris assez peu aussi pour que chacun, parce que comme ça ils sont pris en charge en fait chacun par un comédien. Et c'est là où précisément où leur expérience d'improvisateur a fait merveille. C'est-à-dire qu'on a là des éléments inconnus, enfin des éléments a priori pas contrôlables.
Parce que certains pourraient se retirer ou alors prendre la parole, même s'il y a un certain nombre de conventions qui restent quand même dans ce forme de scène dispersante ou participative, qu'on voit par exemple le récent Hélène de Mark Libens, d'après Goethe, qui a été présenté au théâtre du Grütli, 2 comédiennes et 12 personnes autour de la table. Alors je vous passerai la symbolique biblique, mais disons, indépendamment de cela, le metteur en scène était là tous les soirs, et il m'avait dit, les comédiennes ne seront jamais touchées. J'entends, il y avait comme une barrière invisible autour, et c'est vrai que quand on est dans ces dispositifs, que ça soit aussi pour d'autres pièces, il y a tout de même une distance qui va peut-être s'effacer au fur et à mesure, mais qui est tout le temps présente quelque part, dietro le spalle, comme on dit derrière.
Alors, en fait, on a dû leur dire très peu de choses au final, parce j'ai fait des tas de textes, on a fait des tas d'essais en répétition, en se disant voilà, maintenant je vous dis tout ça, et puis à la fin de la pièce, vous me dites qu'est-ce que, il n'y a pas besoin que je vous dise, et puis qu'est-ce que j'aurais dû vous dire, en quelque sorte. Puis finalement, on en est resté à quelque chose d'assez simple, qui se résume au fait que vous êtes invité spectateur, c'est-à-dire vous vous comportez comme si vous êtes invité dans une soirée où vous ne connaissez pas très bien les gens, et puis pour le reste, vous êtes spectateur, c'est-à-dire vous n'avez pas à intervenir, même. Par contre, si on s'adresse à vous, ben oui, alors dites ce que vous voulez ou ne dites pas, il n'y a pas de problème. Mais en fait, vous n'êtes pas moteur de l'histoire. Donc, vous n'avez pas de responsabilité. C'était surtout ça, en fait, qui inquiétait les gens, c'est-à-dire de faire mal. Je leur dis, mais vous pouvez pas faire mal, vous ne devez pas réfléchir à ça. Les fois où ça a moins bien marché, c'est les gens qui ont pris ça comme un rôle, c'est-à-dire ils ont pris ça comme quelque chose d'important, et puis alors ils ont commencé à jouer, par exemple, à jouer dans le sens même au niveau d'attitude. Alors c'est clair, quand vous avez Christian qui dit « et il nous violait », et puis il y avait un énorme monsieur qui faisait « là, c'était horrible
!» Ils sont tirés au sort ou comment ça se passe?
Non, c'est, comment dire, là, pour le, quand on l'avait fait, en fait, c'était sur notre site, on avait dit aux gens, vous pouvez vous inscrire, sur le poche, c'est les poches qui a dit ça à son carnet d'adresse, d'abonnés, et puis, en fait, on le dit, les gens s'inscrivent. A priori, ça fait déjà une présélection naturelle, c'est-à-dire quand on s'inscrit soi-même à une expérience comme ça.
Une démarche volontaire.
C'est une démarche volontaire, la plupart des gens, d'ailleurs, connaissaient le film. Les fois où, effectivement, il y a des fois où les gens connaissaient pas le film, et là, c'était très, ça pouvait être très délicat. Une seule fois, une personne est partie. Elle est partie parce que, manifestement, ça touchait de trop près son passé. Mais c'est pas le but. J'ai pas du tout envie de martyriser les gens. Et puis, je sais pas, au cirque. Je me suis toujours mis en troisième rang parce que je déteste le fait qu'on vienne justement vous chercher. Donc c'est vraiment, ça doit être une démarche volontaire où ils sont invités et puis ils suivent cette, et puis même des comédiens, je sais pas, Michel Cassagne, ça l'inquiétait un petit peu cette histoire parce qu'il disait, ouais, qu'est-ce que ça va dire. Et puis en fait finalement il a vraiment beaucoup trouvé ça génial. Puis à la fin, bah, il cause avec les invités spectateurs, etc. Donc les comédiens trouvent aussi une espèce de souffle chaque soir avec ces nouvelles personnes qu'on croise, des autres, ficelles de jeu, des choses comme ça. Donc c'est intéressant pour tout le monde vraiment d'avoir ces personnes-là à table.
Ouais, parce que justement, je crois que pour Vinterberg, ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi que les comédiens sont un petit peu sur le fil de rasoir tout le temps, oui. Qui est une part de l'improvisation. Vous venez aussi, je dis, une partie de l'improvisation. Alors c'est vrai que c'est chaque fois une situation d'éveil pour les comédiens, quoique par rapport à des gens qui pratiquent ce genre de depuis longtemps, je pense à Félix Rouquert pour Hautnain, où c'était des solos avec des personnes, il y a un peu des réactions de base. Il y a une palette de laquelle on fait le tour assez rapidement, je veux dire, par rapport aux réactions, oui, des gens. C'est quand même, je dis pas que ça devient totalement prévisible, mais il y a tout de même un certain nombre de balises qu'on peut mettre.
Oui, ce qu'on voit, c'est que le danger n'est pas très très grand. C'est surtout ça. Non, en fait, par contre, là où ils font un travail subtil, à mon avis, c'est qu'ils arrivent à faire en sorte que ce soit des personnages de la pièce, c'est-à-dire que ce soit crédible, simplement que. Et puis on a choisi, et avec ce type de jeu qu'on a choisi, assez réaliste, assez doux, j'en parle assez bien, c'est un projet qui est très bien dans des salles comme Le Poche. Économiquement, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il y a ces 15 spectateurs, 15 comédiens, et puis pour 100 spectateurs, voilà. Mais ça veut dire que ça donne effectivement une possibilité de jouer de manière assez naturelle, et de la manière dont on habille aussi les comédiens ou les choses comme ça, les gens à table, c'est difficile, c'est souvent difficile de savoir qui est comédien et qui ne l'est pas. Donc ça, c'est intéressant. Et je me souviens de, je sais pas, Jean-Luc Borja, par exemple, il est venu voir la pièce, il était absolument fasciné par il disait, il y en avait deux, mais il jouait comme jamais je jouerais, parce qu'il jouait pas, justement. Donc je trouvais ça génial, effectivement.
Quand on est dans un repas de famille, c'est déjà une scène surveillée, on se surveille entre soi. Vous avez, je dirais pas nécessairement dédoublé la chose, mais ce trifrontal, enfin on sait que c'est l'une des qualités ou des défauts suivant le spectateur du bi ou du trifrontal, c'est-à-dire qu'on se regarde aussi, on voit les autres spectateurs et les réactions ou pas. Donc ça, vous vouliez également jouer, parce qu'il y a cet aspect quand même arène, discussion, agora, enfin je sais pas, il y a presque un, c'est comme si ça faisait débat et que ça devait vraiment impliquer des gens qui...
Au début, on voyait plutôt ça comme un ring. Ouais. Et puis d'ailleurs, c'était marrant parce que vraiment, quand régulièrement, ils quittent la table pour se calmer, en quelque sorte, et puis ils reviennent à table comme s'ils retournaient au combat, quoi, en fait. Donc on voyait ça un peu comme un ring. Finalement, ça s'est un peu adouci et c'est plutôt une espèce de participation, d'impression d'être là. Et je pense que je pense qu'avoir un spectateur en face, pour la plupart du temps, ça marche, comment dire, il y a un effet domino en fait qui fait que les réactions se font plus elles se magnifient l'une l'autre, si vous voulez. C'est comme si le fait de voir que l'autre pense à les mêmes sentiments que vous, ça vous conforte, et puis vous pouvez, et puis ça fait des réactions très uniformes en fait du public. Les fois d'ailleurs où c'est un peu dommage, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont vu Festen comme une énorme blague, enfin un film d'humour noir, si vous voulez. Donc on a eu 2-3 fois, pas très souvent, mais 2-3 fois où tout d'un coup il y avait une partie de la salle qui riait beaucoup au spectacle, enfin qui privilégiait un peu ça, puis qui a un peu entraîné le reste. Mais ça a été assez rare en fait finalement.
Alors, ultime chose, quand on entend le père ou quand on perçoit un certain nombre de conversations autour de lui, on se dit que peut-être la violence dont il a fait preuve ne s'arrête pas au viol nécessairement des enfants, mais va peut-être se prolonger ailleurs. Quand on voit l'un de ses fils, donc Michael, traiter sa femme, disons, de manière extrêmement violente, et puis une autre dans la domesticité, si j'ose dire, entre guillemets, qu'il a mis enceinte et qui a avorté et qui va la rouer de coups. J'entends, on se dit, pas nécessairement que la violence est quelque chose de transmissible entre générations, mais qu'il y a en tout cas une forme d'éducation par le poing, quoi.
Bah oui, et puis c'est admis. C'est-à-dire que quand le fils met enceinte la bonne, manifestement, c'est les parents qui vont arranger le coup, qui vont se débrouiller pour qu'elle avorte discrètement, etc. C'est-à-dire, voilà, on cache ça, on l'engueule un peu, on lui dit, écoute, arrête ces choses-là. Par contre, on considère pas tellement ce qu'elle, elle a pu vivre et penser. Donc, effectivement, il y a une violence admise.
Il y a un rapport à l'enfance qui est quand même assez particulier. Dernière chose, donc avec Linda, ce jeu du cache-tampon qui va permettre de trouver cette lettre. On va peut-être pas le révéler au final, mais j'entends. Et puis en même temps, ces liens quelque part. Est-ce que ce rapport à l'enfance, comment vous l'avez ressenti dans cette pièce? Je dis pas du tout qu'il y a un mythe de l'éternelle jeunesse, mais en tout cas, par exemple, c'est Christian. On a vraiment l'impression que c'était à la fois, je dis pas un âge protégé, puisqu'il a été violé à ce moment-là, mais tout du moins quelque chose dont il n'est jamais véritablement sorti dans ses inhibitions, dans son côté très immature.
On sent qu'en fait, il y avait deux enfants. Je pense qu'il y avait un côté qu'il considère comme une forme de paradis, en particulier avec sa sœur jumelle. C'est-à-dire qu'ils avaient manifestement construit un monde à eux, qui était très beau, qui l'a jamais retrouvé effectivement, et puis qu'ils ont peut-être d'autant plus construit qu'à l'extérieur c'était terrible, c'est-à-dire qu'il devait vraiment se protéger. Donc c'est vrai que ce côté-là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu chez les gens qui ont eu beaucoup de problèmes avec leurs parents, c'est-à-dire que ça fait pas forcément de leur enfance un enfer. Il y a une partie qui est un enfer, et puis ils le payent toute leur vie en fait. Mais n'empêche qu'il y a aussi une construction qui est peut-être plus obligatoire, d'un paradis, qui fait qu'effectivement c'est un paradis perdu aussi.
On est parfois proche du mélodrame quand même dans la pièce.
Oui, ben oui.
Il y a des gens très différents. Vous dites c'est très ironique, c'est très comique par instant. Il y a un tragédie.
C'est ça qui est magnifique dans cette pièce, c'est qu'on traverse tout ça. On peut rire, on peut pleurer, on peut avoir tous ces sentiments-là. C'est très bien fait parce que c'est très exacerbé en fait. Mais de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire sans grosses ficelles, je trouve. Très peu. Il y en a très peu de grosses ficelles.
Voilà. Merci beaucoup.